Salut et bienvenue sur Phoenix, l'échec mention très bien, le podcast qui démystifie la peur de l'échec. Je m'appelle Enzo Colucci et un mardi sur deux, je vais à la rencontre de personnes du quotidien pour qu'elles nous parlent d'un tournant de sa vie. Une ambiance à la cool, comme si on se prenait un verre en terrasse, pas de leçons de morale, chacun prend ce qu'il a à prendre. C'est juste des témoignages hyper authentiques sur un sujet qui nous touche toutes et tous. Alors j'espère que tu vas kiffer. Hello, hello et bienvenue sur Phoenix, l'échec mention très bien. Aujourd'hui, on est avec Élise.
Bonjour.
Salut Élise.
Salut.
Ça va ?
Oui, ça va et toi ?
Au top. On est chez Élise du coup aujourd'hui. Est-ce que Élise, tu peux te présenter pour les gens qui nous écoutent ?
Oui, donc bonjour à tous. Moi, c'est Élise Mathy, j'ai 31 ans et je suis actuellement médecin endocrinologue à Paris. Et je ne sais pas si je dois raconter...
Ah, tu peux, vas-y, ouais, sans toi les
bisques que tu veux. Et donc, moi, j'ai eu un grave accident vasculaire à l'âge de 27 ans. Et je m'en suis remise, pas totalement parce que j'ai encore un handicap visible et invisible, mais voilà, je vais vous raconter un peu mon histoire aujourd'hui.
Voilà, bon, elle a déjà teasé, super, on va revenir dessus juste après, elle nous a fait une super intro. Au top, donc Élise qui est médecin, on a le droit de dire, ou non, tu veux pas dire quel hôpital ? Hôpital à Paris, à la PHP,
ouais. voilà, c'est
super.
Ça, parfait.
Très bien, Élise, donc tu t'es présentée, tu nous as bien teasé la suite, direct. Est-ce que tu peux nous donner ta définition à toi de l'échec, ta vision de l'échec ?
Alors moi j'ai deux choses à dire sur l'échec. Premièrement, que je pense que l'homme il est voué à échouer constamment dans sa vie pour pouvoir se surpasser derrière. Ça nous aide en fait à atteindre d'autres objectifs. Ça, c'est la première chose. Donc on va tous échouer dans notre vie, c'est évident. Enfin, au contraire, ça va nous aider à nous relever, je pense. Première chose. Et deuxième chose à dire sur l'échec, c'est que pour moi, l'échec, ça n'existe pas. Parce que en fait, justement, ça dépend de quel objectif tu te mets. Pour toi, ça sera peut-être un échec, mais en fait, pour les autres, pas du tout. Donc, il faut juste changer ses objectifs et sa vision de la chose, en fait. C'est tout.
Très bien. C'est une belle définition, une belle vision, en tout cas. Et donc, bon, bah, aujourd'hui, on va parler... j'ai pas trop à contextualiser, donc tu l'as dit un petit peu avant. Donc, à 27 ans, t'as fait un AVC.
C'est ça.
Et donc, bah, je vais te laisser prendre la parole pour la suite, pour nous raconter comment ça s'est passé, l'élément un peu déclencheur de ça.
C'est ça. Donc, en fait, moi, à 27 ans, je vais décrire un peu comment j'étais à l'époque. Donc, à 27 ans, j'allais bien, tout allait bien dans ma vie. J'étais une jeune fille hyper sportive, j'adorais courir. Donc, en fait, j'avais mes études que je n'avais pas encore terminées. Et la course à pied, le sport, j'étais en salle de sport en plus. Donc, je faisais à peu près 2 heures de sport par jour. Mais parce que ça me plaisait, c'était même pas pour perdre du poids ou quoi. C'était juste que j'étais accro au sport, en fait. Donc, je faisais du sport tout le temps. Le seul inconvénient dans ma vie, c'est que je n'avais pas trouvé l'homme idéal. Voilà, j'avais pas trouvé de... J'étais pas amoureuse, j'arrivais pas à tomber amoureuse. Et voilà. Donc, ça, c'était un peu le truc qui était un peu triste dans ma vie. Donc, du coup, je travaillais, je faisais du sport, c'est tout ce que je faisais.
T'étais déjà en études de médecine, pardon ?
J'étais déjà, ouais, j'avais fait déjà 9 ans d'études de médecine. J'étais en master 2 à l'époque de recherche. Et voilà, j'avais ma sœur, ma nièce, mon beau-frère, mes parents qui étaient proches de moi. Je vivais toute seule à l'époque. Tout allait bien. Enfin, moi, j'étais heureuse à l'époque. Voilà. Et en fait, je m'étais mis comme défi, parce que j'adore les défis, toujours maintenant. Je m'étais mis comme défi de faire le marathon de Paris 2017. Donc, j'avais commencé à m'entraîner à partir de septembre 2016. Et je courais. J'avais même un coach sportif à la salle de sport qui m'avait fait un gros planning de fractionner, séance de fractionner, longue sortie, petite sortie et tout. Enfin, j'avais un planning de ouf, d'enfer. À partir de janvier 2017, je m'étais mise au sport, mais comme jamais, j'étais trop forte. Et en fait, en février 2017, le 10 février, je suis partie le matin courir à 6h du mat. Bon, ce qui m'arrivait jamais. Et en fait, d'un coup, je faisais ma séance de fractionner où j'avais fait déjà 2 km. Et d'un coup, j'ai eu mal au cou à droite. Je sais pas ce qui m'était... Enfin, je comprenais pas au départ. J'ai continué un peu à courir et là, j'ai un trou, par contre. J'ai un trou, je sais plus ce qui se passe et je me retrouve par terre. Donc là, je suis réveillée, je suis consciente de tout ce qui se passe. Je me retrouve par terre et je comprends pas pourquoi je suis par terre, parce que pour moi, tout va bien, en fait. Et donc, je suis par terre, je me dis, mais pourquoi je suis par terre ? C'est pas normal. Sachant que je courais en minimum 1 heure. Et en fait, en général, je courais 1h30, 2 heures, quoi. Donc, je comprenais pas pourquoi là, j'étais tombée. Mais je commençais à comprendre qu'il y avait quelque chose de très grave, parce que si je suis par terre, c'était pas normal. Donc après, je me rends pas compte que je suis paralysée à gauche au départ. Et en fait, je sais qu'il se passe quelque chose de grave, mais je ne sais pas quoi. Donc, je réfléchis un peu, parce que bah, je suis quand même médecin, donc je me dis, mais si t'es par terre, c'est que t'as fait quelque chose de grave. Donc, je sais que c'est grave, mais je ne sais pas ce qui se passe. Et je capte pas du tout que je suis paralysée à gauche, jusqu'au moment où je fais une crise d'épilepsie partielle à gauche. Donc, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que mes membres commencent à bouger tout seuls. Donc, ma jambe et mon bras commencent à bouger comme ça, tout seuls. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Et je me dis, mais je suis en train de faire une crise d'épilepsie. Bon, au début, j'ai pas capté ça, mais... Hein. Donc ça bouge tout seul, là j'angoisse mais terriblement, je me dis je suis par terre, j'arrive, ça fait une demi-heure que j'essaie de me relever, parce que en fait dès que j'arrive, j'essaie de me relever, je tombe sur mon côté gauche, vu qu'il est paralysé, mais je m'en rends pas compte. Et donc j'essaie d'atteindre un arbre qui est tout proche de moi, j'arrive pas évidemment, et tout ça, ça prend peut-être qu'un quart d'heure, en fait j'ai aucune notion du temps, un quart d'heure, 20 minutes je dirais, et là je sais que c'est très très grave, donc j'essaie d'appeler mes parents avec mon téléphone portable. J'y arrive pas, je sais pas ce qui se passe, je pense que j'étais un peu à l'ouest. Hein. Et donc là, le seul réflexe que j'ai, je me dis, bon, c'est grave, t'arrives pas à te relever, donc tu fais quelque chose de très grave, t'arrives pas à appeler tes parents, t'arrives pas à appeler ta sœur avec ton téléphone. Et donc je commence à crier un petit peu, je commence à dire au secours, au secours, au secours, pendant, je pense, 5 minutes. Donc j'étais vraiment stressée, hein. Vraiment, là, j'avais peur.
T'étais en mode genre dans les bois ou un
truc
comme ça ?
Non, j'étais... j'étais devant le tribunal de grande instance de Créteil. Je voulais, justement, ce matin-là, je voulais pas prendre la voiture pour pas arriver en retard au travail et courir avant, prendre ma douche et repartir au métro tranquille. Donc j'étais pas très loin, j'étais à 2 km d'ici, de chez moi. Et donc là, j'ai eu trop de chance parce qu'en fait, il y a une femme qui allait travailler au tribunal de grande instance qui m'a trouvée. Elle m'a vue par terre et heureusement qu'elle est venue me voir parce qu'elle aurait pu flipper aussi, hein. Elle voit quelqu'un par terre, elle va vers moi, et donc elle me trouve par terre, elle me fait « Mademoiselle, ça va ?» Donc là, je pense qu'elle a vu ma détresse, j'ai dit « Bah, non, ça va pas. » Elle fait « Vous voulez que je vous aide à vous relever ?» Je dis bah oui, je veux bien, mais ça fait une demi-heure que j'essaye et j'arrive pas. » Donc bien sûr, elle essaye, elle n'y arrive pas. Et là, je commençais à me dire « C'est quand même bizarre que j'arrive pas à me relever. » Et là, j'ai pensé à l'AVC, je pense, parce que je suis médecin. Et donc je lui ai dit de regarder mon visage, parce qu'en fait... J'avais une paralysie faciale, j'avais tout mon côté gauche paralysé de la tête aux pieds. Et je lui ai dit, regardez mon visage. J'articulais mal, hein, parce que j'étais paralysée, donc on se rend pas compte, mais j'articulais très très mal à l'époque. Et donc elle me regarde et je vois à sa tête que oui, il y a quelque chose qui est pas normal. Donc là, je me dis, putain, je fais un AVC, c'est pas possible. Et donc elle me dit, vous voulez que j'appelle les pompiers ou le SAMU ? Je dis, oui, je pense que là, on va être obligé, j'arrive pas à me relever, vous arrivez pas à me relever. Donc elle appelle les pompiers et là, je vois tout de suite qu'ils pensent à l'AVC aussi. Ils posent toutes les questions standards, en fait. Genre, est-ce que je fume ? Toutes les questions.
Parce
l'âge.
Que t'as pas d'antécédent à la base.
J'ai
de
aucun
ça,
aucune maladie, aucun antécédent. Dans ma famille, il n'y a aucun AVC. Il n'y avait rien qui pouvait me faire suspecter que j'allais en faire un. C'est-à-dire que j'ai jamais eu de symptômes, même les jours d'avant. J'étais en pleine forme, quoi. J'avais pas de fatigue, parce que je faisais énormément de sport. J'étais au top de ma forme, vraiment. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvée par terre, incapable de me relever, paralysée de tout mon côté gauche. Donc là, j'avoue, quand je te raconte, j'ai un peu les frissons.
C'est normal.
Parce que la suite a été compliquée pour moi. Donc j'ai été après en réanimation, bien sûr. Ils m'ont fait tous les examens standards. La thrombolyse pour essayer d'enlever le caillot si jamais il y avait un caillot. Bon, j'avais pas de caillot, donc je suis restée paralysée. J'ai été en réanimation pendant 4 jours. Ils ont failli m'ouvrir le crâne pour enlever l'œdème cérébral parce que j'avais un énorme œdème cérébral à droite. Donc c'est le cerveau droit qui est touché et le cerveau droit commande le corps gauche en fait. Et donc j'ai pas été opérée heureusement. En fait ça s'est amélioré un peu spontanément cet œdème. Mais j'étais hyper fatiguée, je dormais tout le temps, j'étais complètement dans le déni total. C'est-à-dire qu'en réanimation, je disais à mes parents, moi, dans une semaine, je pars au ski avec mes potes. Donc mes parents disaient, oui, bien sûr, on verra. Mais bon, donc finalement, je suis sortie de réa, j'étais en neurovasculaire pendant 10 jours. Et ensuite, j'ai été très, très rapidement en neuro-rééducation, juste à côté, là, Albert Chenevier, ça dépend de mon dort aussi. Et j'ai été 3 mois hospitalisée non-stop en rééducation. Et donc, au début, en fait, j'avais pas pris conscience en réanimation en neurovasculaire, mais j'étais en fauteuil roulant, en fait. Mm-hmm. Pendant 1 mois, j'ai été en fauteuil roulant. Et ça a été la pire période de toute ma vie. Parce que, j'étais hyper sportive. Comme je te disais, je faisais 2 heures de sport par jour. Et du jour au lendemain, la fille de 27 ans, hyper jeune, elle se retrouve dans un fauteuil roulant avec des vieux, enfin, et des personnes âgées en centre de rééducation.
Et là, tu sais que c'est momentané, en revanche, cette période de rééducation.
En fait, moi. pour moi, c'était sûr que c'était momentané. Il était hors de question que je reste en fauteuil roulant pendant un mois, enfin plus d'un mois. Et en fait, moi, j'étais obnubilée pour remarcher. Il fallait que je remarche pour recourir, en fait. Moi, à la base, c'était vraiment, je voulais me mettre debout pour recourir.
Donc, t'avais juste... déjà un objectif en tête, quoi.
Ah ouais, moi, direct, j'ai eu un objectif. D'ailleurs, les gens étaient hyper étonnés parce que j'ai jamais été en train de pleurer, en train de dire « Ah mon Dieu, mais c'est horrible !» Non, 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 jamais. J'ai toujours dit « Bah franchement, moi, je vais me lever. » Et même pire que ça, c'est qu'en fait, au bout de 2 jours de rééducation, je me suis mis debout et je suis tombée parce que j'étais carrément dans le déni, en fait. Pour moi, j'étais pas paralysée, c'était impossible. Donc j'ai mis plusieurs... Ça met très longtemps à percuter qu'en fait, bah non, ça va pas être du jour au lendemain que tu vas remarcher, en fait. Donc en fait, au début, j'étais vraiment paralysée. Mon côté gauche répondait pas du tout à ma commande cérébrale. Donc je me rendais pas compte que ça allait même durer aussi longtemps. Pour moi, un mois, c'était hyper long. Pendant un mois, j'étais en fauteuil roulant, j'essayais de marcher, de me lever, mais j'arrivais pas. Je fais de la kiné, des heures de kiné, des heures d'ergothérapie pour le bras, des heures d'orthophonie, parce qu'il y avait aussi la paralysie faciale qui était importante, et rééducation cognitive aussi, parce qu'évidemment, j'ai beaucoup de fatigue, on a toujours beaucoup de fatigue, on a du mal à... Comment expliquer ? Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est des troubles invisibles, en fait. Vous vous en rendez pas compte, mais je suis un peu plus lente qu'avant, je suis un peu plus fatiguable. J'ai pas eu de perte de mémoire, heureusement. Heureusement, j'avais pas de perte de mémoire. Mais par exemple, pour les calculs mentaux, bah, j'ai toujours été une quiche, mais je suis encore plus une quiche, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que je me concentre. J'avais des gros troubles de concentration, encore maintenant. Et tout ça, c'est des heures de rééducation, en fait, pour que ça soit normalisé. Et donc tout ça étant, donc je suis petit à petit, avec ma persévérance, je suis sortie du fauteuil roulant, j'ai eu une canne. Et c'est pareil, la canne, pour moi, c'était impossible que je reste en marchant avec une canne. Quoi. C'était impossible. Donc j'ai eu une canne pendant 3 mois après. Donc au mois de juin, en fait, moi, je marchais avec la canne, mais en fait, j'avais tellement pas envie de la canne que je la baladais. Tout le monde me disait, mais arrête, en fait, tu balades ta canne, elle sert à rien. Je dis, bah ouais, mais... Il m'obligeait, parce qu'en fait, vu que j'étais tombée au tout début de la rééducation, personne ne me faisait confiance. Il ne voulait pas que je retombe derrière. Donc, en fait, ça a été encore plus long, ma rééducation au départ.
Toi, tu étais toujours dans le déni à ce moment-là, justement,
non,
avec cette
j'ai
canne,
été,
ou t'as accepté
j'ai
déjà
été dans le déni le premier mois, je pense. Et après, j'ai bien vu que ça allait mettre hyper longtemps pour que je récupère des fonctions à peu près standards. Et en plus, quand tu as un AVC, tu as une rétractation de tes muscles. Donc en fait, j'avais un super neuro-rééducateur qui me disait faut étirer tes muscles tant d'heures par jour. Donc j'avais un planning de rééduc, mais phénoménal. J'avais 4 heures de rééducation par jour, rien que pour la motricité, en fait, sur mes muscles. Donc moi, ça ne me gênait pas parce que j'étais sportive, c'était un atout, parce que moi, je n'ai jamais eu peur de faire 4 heures de sport par jour. Bon là, du coup, ce qui était dur à accepter, c'est que ce n'était pas du sport, c'était de la rééducation. Mais je l'ai pris comme disant, là, tu ne fais plus de sport, mais maintenant, tu vas te rééduquer pour marcher et courir. Donc j'ai été hyper rigoureuse, je le suis encore maintenant.
C'était quoi l'élément déclencheur qui t'a fait passer du coup du stade post-déni du coup au bout d'un mois ? C'est quoi le truc qui t'a dit
pas.
Ok, maintenant j'accepte et je sais que ça va prendre du temps.
Bah je pense que c'est grâce à ma famille hein, parce que moi j'ai jamais été patiente et je disais mais c'est hors de question que je reste en fauteuil roulant en canne. Moi je veux pas être une personne handicapée, c'était mort. Mais je pense que ma famille m'a dit prends le temps. Ma sœur me disait prends le temps pour toi, c'est toi la priorité maintenant. Tu te rééduques et après, ça se trouve, dans un an, elle me disait, dans un an, on refera le bilan et ça se trouve, tu auras vachement progressé. Mais prends ton temps pour ta rééducation, c'est hyper important. Donc, je pense que c'est grâce à ma sœur et à mes parents qu'ils m'ont dit vraiment, voilà, là, maintenant, c'est toi, tu te priorises tes patientes. Maintenant, tu n'es plus médecin, tu es une patiente. Tu fais ta rééducation et petit à petit, ça va, les choses vont se décanter. Donc, je me suis vraiment focalisée sur ma rééducation. C'est ça qui a été... Je pensais vraiment en me disant, rééduque-toi à mort et petit à petit, ton handicap, il va disparaître de plus en plus.
Ouais, t'es obligé d'accepter cette étape-là, en fait.
Je me suis focalisée vraiment sur la rééducation, ouais. Et j'étais obligée de passer par là et donc j'ai toute mon énergie, parce que j'avais pas beaucoup d'énergie, hein. Toute mon énergie dans la rééducation, je faisais plus rien, c'est-à-dire que toutes les soirées entre potes et tout, je pouvais plus y aller. Je me suis vraiment coupée de tout le monde. D'ailleurs, mes amis, ils l'ont bien compris. Hein. J'ai eu des amis extra aussi qui ont tout à fait compris que c'était ma rééducation
c'était
d'abord.
Pas voulu,
et c'était pas voulu et j'ai dû un peu dire stop à tout. Et voilà, même j'étais hyper fatiguée à l'époque. C'est vraiment des troubles qu'on ne se rend pas compte. Mais Louis, quand il m'a rencontrée, c'est mon copain, je dormais tout le temps. Il voulait sortir. Je disais, je suis crevée, je ne peux pas, il faut que je dorme. Enfin, comme des maladies chroniques, en fait, sauf que c'est le cerveau qui a pris un sacré coup. Donc j'étais vraiment une larve en fait. Bon, j'ai eu 6 mois de... J'étais pas très fraîche. Et après, par contre, j'ai eu 6 mois où j'étais pas bien. Et au moment où j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un de formidable, qui m'a un peu sorti de mon trou, et ben ça, c'est la chance. J'ai eu beaucoup de chance en fait. Maintenant, à distance de cet épisode, sur le coup, je pensais que ma vie était de la merde, que j'étais la plus nulle du monde, que je regrettais la fille que j'étais avant, parce que j'étais belle, mince, grande, super, j'étais parfaite. Et en fait, du jour au lendemain, je me retrouve handicapée, le regard des autres, ça a été terrible, tu vois. Et en fait, 6 mois après ça, il y a quelqu'un qui est venu me chercher sur les réseaux sociaux, un jeune aussi qui avait 25 ans. Et qui m'a dit, bah écoute, moi aussi j'ai fait un AVC, j'ai envie de rencontrer des jeunes qui ont vécu la même chose que moi, est-ce que tu veux bien qu'on se rencontre? Donc moi je lui dis, bah c'est un peu brutal quand même. Et après je suis allée voir son profil, j'ai trouvé super mignon, et il est venu me parler, et après finalement on s'est vu. Et en fait tu vois, grâce à cet épisode-là qui peut être, c'est pas un échec, c'est un accident de vie, mais finalement bah, les choses elles se sont décantées petit à petit, je pense qu'il faut laisser le temps au temps et... Les choses, elles vont toujours se décanter, quoi. Enfin, j'espère, je pense. Et voilà, finalement, maintenant, ma vie, a posteriori, on est à 3 ans et demi de cet épisode dramatique de ma vie qui aurait pu être terrible. J'ai quand même fini mes études, j'ai été thésée en médecine, donc j'ai ma thèse de médecine, je suis médecin maintenant. J'ai un super métier que j'adore. Du coup, j'ai la vision patient-médecin, donc c'est super parce que du coup, je suis peut-être plus à l'écoute des gens. Je sais que quand ils vont pas bien, bah, c'est... D'autres médecins vont dire oui, bon, on s'en fout, moi je vais vraiment les écouter. Et c'est un atout. Tout le monde me disait à l'époque, ah, mais tu verras, ça sera un atout pour toi en tant que médecin. Je disais, ouais, mais là je travaille pas, en fait j'ai eu un an d'arrêt. Un an d'arrêt, en fait, avec un épisode pareil, c'est rien du tout un an d'arrêt. Mais l'année où j'ai été arrêtée, j'ai pu travailler, c'était horrible.
Ça a pris 3 mois donc de rééduque, tu disais.
Ouais. Alors.
Après 3 mois, et c'est au bout de 6 mois à compter de l'épisode que tu as rencontré du coup Louis, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. J'ai eu en fait 3 mois d'hospitalisation complète en rééducation. Mais la rééducation, elle ne s'arrête pas une fois que tu sors de l'hôpital, en fait. En fait, après cette hospitalisation, j'ai eu encore de la kiné, de l'orthophonie. Moi, j'avais dit à mon médecin, bah, je veux reprendre mes études. Il m'a dit non, mais en fait, ce n'est pas possible, tu n'es pas en capacité. Donc là, bah, j'ai beaucoup pleuré. J'ai eu un moment vraiment de choc où je me suis dit, mais pourquoi je ne peux pas reprendre mes études ? Moi, je me sentais capable, en fait, je ne l'étais pas. Donc en fait 3 mois d'hospit, puis après la rééducation a continué et en fait j'ai eu un an d'arrêt de travail et à force d'acharnement envers mon médecin, je lui ai dit non mais moi il faut que je reprenne là mes études, je voulais absolument finir mon master 2 que j'avais commencé parce que je suis un peu têtue, je veux toujours finir ce que j'ai commencé. Et il m'a dit ok, mais alors tu travailles un jour par semaine. Donc j'ai dit ok, bah vendu un jour par semaine, puis deux, puis trois, puis c'était comme ça.
Step by step,
ouais. Ouais, step by step. Et voilà, au bout d'un moment, j'ai fini mon master 2 en septembre 2018. Après, j'ai repris il me restait un an de médecine à faire. Donc en 2018-2019, j'ai repris mon internat, qui a été aussi 3 jours par semaine, puis après à temps complet. Et j'ai été thésée en avril 2019. Donc il y a, ouais,
c'est ça. Un peu plus d'un an,
ouais.
Un an et demi, du coup.
Un an et demi, ouais. Et après, donc, j'ai eu mon premier poste en tant que chef de clinique à Gustave Roussy, en onco-endocrino. Et là, maintenant, elle est à Paris.
À Paris, à la PHP, du coup.
C'est ça.
OK. Donc, ouais, grosse importance pour toi d'être soutenue dans ces moments-là par ta famille, ton copain. Et c'est ça qui t'a fait te relever, en fait.
Oui.
Peut-être plus rapidement.
Ah bah, je pense que déjà, le fait d'être sportive, je me serais relevée, je pense, toute seule. Mais c'est sûr qu'avec mon entourage, ma famille, au départ, j'avais que ma famille, j'avais pas de copains. Ma sœur, mon beau-frère, ma petite nièce et mes parents ont été d'un soutien sans faille, c'est sûr. Mes amis très très proches aussi. J'ai 3 meilleures amies qui m'ont... Enfin, y avait une de mes meilleures amies qui venait manger avec moi tous les midis. Elle me voyait pleurer, elle me faisait rire. Enfin, et les 2 autres aussi qui étaient hyper proches de moi, elles m'ont sauvé la vie. Enfin, vraiment, ça a été super.
Parce que ta plus grosse crainte à l'époque, ta plus grosse peur, c'était de ne pas pouvoir remarcher, de ne pas pouvoir refaire
J'avais
du sport, c'est
peur,
ça
ouais, de ne pas pouvoir refaire de sport.
Et aujourd'hui, tu peux un petit peu ?
Ouais, alors maintenant, voilà, tu vois, j'ai un gros smile. Parce que j'arrive à recourir. Bah là, c'est pareil, ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. Mais... step by step, comme tu disais tout à l'heure. J'ai recouru au départ 100 mètres dans le couloir de rééducation avec ma kiné. Elle savait que c'était mon objectif de recourir, donc elle me faisait courir le couloir et je m'effondrais en pleurs parce que j'y arrivais pas. J'arrivais pas à courir, j'ai l'impression de courir comme une conne. Enfin, vraiment, c'était horrible. En fait, après mon AVC, j'ai eu une perte de confiance en moi, mais terrible. Déjà, à la base, j'avais pas trop confiance en moi. Mais alors, après cet AVC, je pense qu'à cause du regard des autres, tu vois, tout le monde me regardait comme une personne handicapée, ce que j'étais, ce que je suis toujours. Et ben, en fait, j'ai perdu toute confiance en moi. C'était une horreur pour une fille de 27 ans, je pense que c'était horrible.
Et comment t'as fait pour travailler sur cette confiance aujourd'hui?
Ah ouais, bah ça a mis du temps, c'est encore en cours de travail. En fait, bah ça, ce qui m'a aidé pour le coup, je pense que c'est mon copain, parce que quand il m'a rencontrée, j'étais au plus bas de confiance en moi, j'avais zéro confiance. Je marchais trop mal et petit à petit, bah lui, vu qu'il est tombé amoureux de moi alors que j'étais handicapée, je me suis dit, bah en fait, il n'y a pas que ça qui compte en fait. Donc il m'a dit, mais moi, je serais pas tombée amoureuse d'Élise avant son AVC, je suis tombée amoureuse d'Élise maintenant, après son AVC. Et en fait, petit à petit, à force de l'entendre, et bah, ça m'a donné un peu plus confiance en moi. Voilà. Okay. Je pense que c'est le regard de quelqu'un qui t'aime qui fait que tu te sens un peu plus forte.
Mm-hmm. Avec des mots hyper bienveillants, ouais. qui te confortent dans
c'est
tes
ça.
Moments de doute.
Ouais. Et puis ma famille aussi, puis mon métier aussi. Mon métier m'a redonné confiance en moi parce que bah, quand j'aide des gens, des patients et tout, je me dis bah, je ne suis pas inutile, je suis peut-être handicapée, mais je sers à quelque chose. Enfin, tu vois, ça m'aide vachement. Les gens qui me remercient, enfin, tout ça, ça aide. Ouais.
Et comme tu dis, tu développes en plus d'empathie que peut-être
c'est
un
ça,
médecin
je,
un peu
je
classique.
Pense, je pense, ouais, je pense.
Grâce du coup à ce qui
grâce
t'est arrivé.
Grâce à ça. Oui, maintenant, en fait, tout est... Maintenant, je dis grâce à mon AVC. Avant, je disais, ah putain, mais c'est la fin du monde, je vais pas bien, je vais jamais m'en sortir. Et maintenant, bah, grâce à mon AVC, je suis peut-être un meilleur médecin, j'ai trouvé l'homme de ma vie, je suis heureuse maintenant, tu vois, donc c'est dingue, mais c'est vrai.
Et c'est quoi, du coup, les conséquences positives qui en découlent, du coup, de ça? Parce que forcément, les premiers temps, comme tu dis, la première année, c'est les moments de doute, c'est horrible, ça va pas. Et à un moment donné, bon, bah, il y a le coup de pédale qui fait que t'arrives à rebondir. Et aujourd'hui, c'est quoi le positif que t'en retires de ça maintenant?
Bah, moi, je pense maintenant, j'ai que du positif dans ma vie parce que du coup, je vois la vie autrement aussi. Parce que, bah, comme tu dis, j'ai eu 6 mois d'enfer, j'étais vraiment pas bien du tout. Je voyais pas le bout du tunnel et après 6 mois, j'allais beaucoup mieux. Et maintenant, je vois le positif partout. C'est pour ça que je te disais, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des remises en question, se sentir peut-être changer ses objectifs. Il faut des objectifs adaptés à mon handicap. Par exemple, moi, je disais à ma sœur, mais je ne pourrais jamais faire le marathon de Paris, par exemple. Et elle me disait, oui, mais est-ce que c'est vraiment un objectif qu'il faut que tu atteignes? Donc elle me disait, maintenant, mets des objectifs atteignables. Donc, par exemple, si je te dis, bah, demain, je vais faire le marathon, évidemment, je vais échouer. Parce que je ne suis pas capable de faire le marathon de Paris. Ce n'est pas un problème. Maintenant, je me mets des objectifs qui sont atteignables. C'est-à-dire que le marathon, je sais que je ne peux pas le faire. Je vais me dire, bah voilà, là, j'ai envie de courir 2 km ce week-end, bah, je vais le faire. C'est 2 km, c'est rien par rapport à ce que je faisais avant, mais ce n'est pas grave. Moi, quand je cours 2 km, je suis hyper heureuse. Tu vois, je sors, j'ai un smile de malade, j'ai la pêche. Enfin voilà, il faut juste avoir des objectifs atteignables.
Et adaptés, du coup.
Et adaptés à ton handicap ou à d'autres choses qui font que tu ne peux pas y arriver. Et comme ça, tu seras content de toi, fier de toi, la confiance en soi, elle va monter. Et puis voilà. Donc grâce à ça, grâce à la confiance en soi, je pense qu'on est capable de faire plein de choses.
Entièrement d'accord. Et la petite question un petit peu bateau, un peu cliché, tu dirais quoi à ton toi de l'époque quand ça t'est arrivé?
C'est pas cliché du tout, j'y pense souvent. Et quand je pense à ça, je me dis qu'est-ce que je lui dirais à cette fille qui était qui n'allait pas bien du tout, zéro confiance en soi. Je lui dirais d'être patiente. Alors tout le monde me disait, mais sois patiente, j'ai envie de les claquer quand tu me disais ça.
Horrible
quand tu dis ça, que t'es en fauteuil roulant, sois patient, mais mec, j'arrive pas à marcher, comment tu veux que je sois patient? Mais en fait, je pense que je lui dirais ça, je lui dirais, prends le temps de te guérir psychiquement et physiquement, et après, tout découlera de ça, tout ira mieux. Je lui dirais, prends confiance en toi, parce que t'es peut-être handicapée, mais t'es pas moche, t'es pas grosse, parce que je me sentais vraiment bas du tout, quoi. C'était horrible. Et ouais, je dirais, fais-toi confiance, surtout.
Patience, du coup.
Patience et le regard des autres, on s'en fout. C'est pas ça qui est important.
Trop bien. Eh ben écoute, on va clore cette petite interview, pleine d'émotions et pleine de belles vertus. Ouais. Et on va pouvoir enchaîner sur les questions pour la mention.
Question pour la mention.
Avec justement la première question classique, c'est quoi pour toi, Élise, les 3 plus grandes vertus à avoir dans la vie?
Ah oui, c'est intéressant. Alors, les 3 plus grandes vertus à avoir dans la vie, celles que j'aurais moi.
Ouais, pas forcément celles
en
que
général.
Tu peux en avoir. Il y a peut-être que tu aimerais avoir et que t'estimes ne pas les avoir.
Alors, les 3 plus grandes vertus, moi je dirais détermination, petit 1.
Mm-hmm.
peux-tu de patience, du coup, et travail. Je sais pas si ça te va.
Moi, ça me va très bien. C'est très drôle, du coup, cette question à chaque fois, comme je le dis, ouais. Parce que tous les invités, je la pose exprès, et ça n'est jamais la même réponse. À la rigueur, tu peux en retrouver un, aller au mieux deux vertus similaires, mais tu n'auras jamais les trois mêmes.
Ouais, c'est par rapport au vécu, je pense.
Oui, ouais, parce que évidemment. Ça ne veut rien dire, trois. Je sais que cette question, ouais. elle est un peu traître, parce qu'on ne peut pas en choisir trois, il y en a plein. Mais c'est ça qui est drôle, non, c'est de voir un peu la priorité de chacun.
Détermination, patience et travail pour moi, ouais.
Des belles vertus. Genre, il y en a deux, je pense. Les deux premières, je suis assez
d'accord
avec toi. Ouais. Bon, la troisième aussi, mais j'aurais choisi patience si on est d'accord, clairement.
Okay.
Trop bien. Deuxième question, Élise, est-ce qu'il y a un livre, un film, une série, un podcast, quelque chose que tu as kiffé, que tu aimerais partager à ceux qui écoutent?
Ouais, j'ai un livre qui m'a aidé d'ailleurs, que j'ai lu après mon AVC. Je sais pas si tu connais Idriss Aberkane.
Ouais. Libérer votre cerveau.
Exactement. J'adore.
Il en a écrit deux, même, je crois. Deux bouquins, je crois.
Bah, j'ai pas lu les autres, mais ouais. Ce mec-là, je le kiffe trop. Quoi. Franchement, j'adore ce qu'il écrit. Et j'ai lu ce livre-là après et j'ai trouvé ça génial.
Libérer votre cerveau, ouais. D'Idriss Aberkane. Ouais. C'est un génie, ce mec.
Ah ouais, il est trop fort. Bah, j'écoute maintenant, quand c'est... Il parle. C'est... Il fait des vidéos YouTube, il fait des conférences et tout. Il est génial.
Ouais.
Mais il parle de la confiance en soi aussi, qui est très importante. Hein. Lisez-le.
Ouais, au top. Franchement, un super mec.
Top.
Super mec, Idriss Aberkane.
Ouais.
Très bon choix.
Merci.
Et enfin, la dernière question, Élise, c'est quoi, du coup, le prochain objectif que tu t'es fixé?
Alors, il faut que je réfléchisse un peu. Parce que j'ai plein d'objectifs.
T'as du temps. Ah ouais, j'imagine.
Je peux en dire plusieurs ou vraiment t'en veux qu'un?
Si t'en veux, si tu veux en dire deux, trois, il n'y a pas de limite. Vas-y.
Prochain objectif, parce qu'en fait, j'ai écrit un livre pendant l'année qu'a suivi mon AVC.
Très bon.
J'ai écrit un livre comme un journal intime, en fait, qui m'a beaucoup aidé aussi, je pense, pour jamais oublier ce qui s'est passé et comment j'étais, quand tel état d'esprit à tel moment. Et en fait, là, je suis en train de chercher un éditeur. Prochain objectif, éditer mon livre.
Ok.
Donc, gros objectif. Deuxième objectif, recourir plus de... courir 5 km en étant à l'aise. Parce que là, je cours 2 km à l'aise. J'aimerais bien faire 5.
Ok.
Et après, c'est tout. Hein.
C'est déjà bien. Hein. Éditer un bouquin
et
passer de 2 à 5, c'est beau.
Ouais, c'est pas mal. Voilà.
Trop bien. Et bah, au top, Élise. Il y a un petit rituel aussi de fin dans Phoenix. Ça fait presque une demi-heure du coup qu'on papote. Est-ce que tu arrives à nous résumer un peu tout ce qu'on s'est dit là en une phrase, idéalement, en quelque chose de très succinct, quoi?
Alors, comme je disais, il n'y a pas d'échec. Ayez confiance en vous. Et chaque épreuve de la vie, je pense que c'est une chance pour faire encore mieux derrière.
Bah voilà.
Pas mal, hein?
Pas dire plus. Pas dire grand-chose de plus. Hein. On a Louis aussi. Les gens ne savaient pas depuis tout à l'heure, mais Louis, hein, le copain d'Élise, il est bien là depuis tout à l'heure. On a un fan club qui est présent. Du coup, il valide aussi la phrase. Eh bah, ben écoute, Élise, vraiment, merci beaucoup. C'était une très belle interview. Merci pour ce beau témoignage. Tout le meilleur pour toi,
merci.
Pour la suite. Je suis sûr que tu vas passer à 5 km
finger
and nose en 2021. Easy.
C'est sûr.
Trop cool. Et bah,
merci.
À plus, Élise.
À plus.
Ciao, ciao. Merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère sincèrement que l'épisode t'a plu et qu'il a pu t'apporter quelque chose de positif. Hésite surtout pas à parler du podcast autour de toi parce que clairement, le bouche-oreille, c'est de loin notre plus grande force. Abonne-toi à la page Instagram Phoenix Podcast ou à la newsletter sur le site phoenixpodcast.fr pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Tu peux également me contacter très facilement sur LinkedIn à Enzo Colucci. Et enfin, si tu l'as pas déjà fait, si tu peux juste prendre une minute pour me mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, ça m'aide vraiment beaucoup. Je te dis à très vite pour encore plus de ratés et encore plus de kiff.